conférence privée par le père Philippe à Saint-Joseph, le 10 mars 1987. L'enseignement du Christ est dans les faits, les gestes du Christ. C'est ce que nous essayons de faire. Découvrir progressivement ce qu'est cette sainteté de Saint Jean. Puisqu'il est notre Père, il a bien voulu accepter cette paternité. C'est vrai, parce que l'Église a reconnu, donc ça prouve que Saint Jean l'a accepté. Accepter cette paternité. Et nous devons, nous, essayer de la comprendre progressivement. Et spécialement ceux qui vont faire profession. C'est vrai. Ils doivent comprendre qu'ils se mettent à l'école de Saint Jean, dans l'Église, d'une manière très particulière. Et il y a une manière de vivre sa vie religieuse. Manière d'entrer dans l'aspect doctrinal de l'Église, une manière de vivre la charité fraternelle qui est marquée d'une façon très particulière par Saint Jean. C'est ce qu'il faut arriver progressivement à découvrir, puisque c'est là où on saisit ce qui caractérise veut nous donner. Vous voyez, plutôt que de parler du charisme de la congrégation, j'aime mieux regarder ce qui caractérise la sainteté de Saint Jean pour lui demander de nous donner quelque chose de son mystère, vivre un peu à son ombre. Je crois ça très important. Vous avez remarqué, dimanche, premier dimanche de carême, la prière, donc la première oraison, on demande que mieux connaître Jésus-Christ. Ça m'a beaucoup frappé. Pourtant, j'ai lu cette oraison de nombreuses fois. Ça m'a beaucoup frappé de voir que la première chose que l'Église nous faisait demander, passer devant lui. On sent très bien qu'il est de très mauvaise humeur. Jésus lui dit, veux-tu guérir? Veux-tu recouvrer la santé? Il répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à s'agiter. Et pendant que moi j'y vais, un autre descend avant moi. S'en dit long. Entièrement replié sur lui-même, dans une amertume terrible. Et c'est celui-là que Jésus regarde. Vous voyez, cette espèce d'attraction de la misère sur le cœur de Jésus. La Samaritaine, cet enfant qui blesse le cœur de son père, est en agonie. C'est lourd à porter, un enfant qui est en agonie. Et puis, cet infirme à la piscine de Bethsaida. Vous voyez, on est en présence de trois misères extrêmes. Pour une femme, la plus grande misère, c'est de ne plus être aimée et de ne plus aimer. C'est la plus grande misère. Et cette Samaritaine, elle n'est plus aimée, elle n'aime plus. Elle a fait 5 expériences successives malheureuses. C'est terrible. Réduite à la corvée d'eau en plein midi. Situation limite de la femme. Situation limite d'un père officier royal. D'avoir un fils, un tout petit enfant qui agonise. L'agonie d'un enfant, c'est la situation limite de la famille. La famille est faite pour que les enfants grandissent. Et quand l'enfant agonise, c'est toute la famille qui est en situation limite. L'agonie d'un enfant, je crois que c'est la chose la plus terrible pour la famille, pour le père comme père, pour la mère comme mère. Parce que c'est anormal. Un tout petit enfant qui agonise, c'est anormal. C'est l'innocent qui souffre. Souvenez-vous de ce que dit Camus. Un tout petit innocent qui meurt et qui souffre. Qui est incapable de dire sa souffrance. C'est peut-être ça qui est le plus terrible quand on voit un petit enfant qui meurt. Je me souviens, ça restera toute ma vie. J'avais baptisé, je crois, le 6e enfant d'une famille. Je le connaissais très bien. Et ma mère, la mère, après le baptême, m'a fait le geste. Mon père, je vous le donne, cet enfant. Vous savez pas ce qu'elle disait, hein? 6 mois après, cet enfant agonisait. Il a agonisé pendant 8 jours. C'était effrayant. Je me souviens, la mère en face de ce petit qui agonisait. Alors, on comprend la prière du père. Descends avant que mon fils ne meure. Situation limite de la famille, l'agonie d'un tout petit. Situation limite d'un homme, cet infirme à la piscine de Bethsaida. C'est vraiment les situations limites de l'humanité. Et comme l'Esprit Saint a toujours un langage concret, l'humanité, c'est la femme, c'est l'enfant et c'est l'homme. L'enfant unit au père, ou l'enfant unit à la mère. Ça, c'est la situation limite. Un homme, infirme, donc ne pouvant pas travailler, et au milieu d'une communauté qui ne s'occupe absolument pas de lui. Et dans cette communauté, il y a par intervalle L'ange qui descend. Et l'eau se met à bouillonner. Et à ce moment-là, il y a une chance d'être guéri. C'est affolant comme situation. Et de voir que tous les autres passent avant. Depuis 38 ans. Même noviciat d'un an. C'est pas aussi terrible. Et ça ne dure qu'un an. Ou deux ans. 38 ans de noviciat. Du Saint-Esprit. Et c'est celui-là que Jésus regarde. Vous voyez, c'est les trois regards du Christ sur la misère des hommes. Et on comprend que Jésus, regardant cette misère, dépasse toutes les frontières. C'est le caractère catholique de la miséricorde du Christ. C'est ça que Jean nous montre. Il est le seul à nous montrer de cette manière-là. C'est ce qu'on verra à la croix. Il meurt pour tous les hommes. Mais là, on le voit d'une manière concrète. On voit ce regard spécial de Jésus par rapport à cette Samaritaine. Il prend l'initiative. Vis-à-vis de cet officier royal, c'est l'officier royal qui se précipite sur lui. Et pour cet infirme à la piscine de Bethsaida, c'est Jésus encore qui prend l'initiative. Et il n'est pas très bien reçu. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à bouillonner. Pendant que moi, j'y vais, un autre descend avant moi. Ça, c'est le cri de désespoir, d'amertume. C'est très rare que Jésus ne demande aucune coopération. D'habitude, il demande toujours une petite coopération. Une demande dans la prière. C'est pour ça qu'il faut prier. Ordinairement, c'est ce que Jésus demande. Là, il ne demande aucune coopération à cet infirme qui est bloqué sur lui-même et qui ne pense qu'à lui. Et quand Jésus lui dit « Veux-tu guérir ?», il est incapable de répondre à cet infirme qui est replié sur lui-même, est totalement replié sur lui-même. Jésus dit « Lève-toi, emporte ton grabat et marche. » C'est de la pure gratuité. Et ça, je crois que Jean est très sensible à ça. Le regard de Jésus sur la misère, et puis ce regard qui se réalise, ou cette miséricorde qui se réalise dans une pure gratuité. Aussitôt l'homme recouvra la santé. Il emporta son grabat et il marchait. C'est merveilleux ce geste. Mais, terrible, ce geste est fait le jour du sabbat. Ne disons pas que Jésus a oublié que c'était le jour du sabbat. Un Israélite ne peut pas oublier le sabbat. Un juif pieux n'oublie jamais le sabbat. Les chrétiens arrivent de temps en temps à oublier le dimanche, mais ça, j'ai remarqué, ça c'est le sens extraordinaire de l'attitude religieuse. Ils n'oublient pas. C'est du reste réalisé de façon bien plus concrète. Jésus a fait exprès, ce geste de miséricorde le jour du sabbat. Et Jean a très bien saisi ça. Parce que je crois que dans l'évangile de Saint Jean, Jean est très attentif à ce fait que le peuple d'Israël refuse celui qu'il attend. Celui qu'il a attendu pendant des années et des années. Des centaines d'années. John l'Apocalypse a bien saisi, je crois, la stratégie du démon avec l'Apocalypse. Parce que dans l'Apocalypse, la stratégie du démon, elle est décrite de façon étonnante. Comme la stratégie du démon à l'égard de l'Église. C'est la stratégie du démon à l'égard de Jésus. Le démon n'attaque l'Église qu'à cause du Christ. Et qu'à cause du lien de l'Église avec le Christ. C'est ça qu'il ne peut pas supporter dans l'Église. C'est ce lien de prédilection de Jésus à l'égard de son Église. Et alors Jean essaie de nous faire comprendre comment le démon s'est infiltré. Jean ne nous donne pas au désert. Je crois qu'il les a communiqués à Saint-Luc. Il montre ce combat singulier. Comme dans l'Apocalypse, il y a la femme et le dragon. Il y a un combat singulier. Et comme dans l'Apocalypse, le dragon ne s'avoue jamais vaincu. Va poursuivre la femme par une stratégie d'enveloppement, la bête de la terre et la bête de la mer. Je crois que Jean va essayer de saisir comment le démon qui a attaqué Jésus au désert, qui a été chassé par Jésus, retire-toi Satan. Le démon ne s'avoue jamais vaincu. C'est le propre du démon. Et c'est le propre de l'orgueilleux. Un orgueilleux ne s'avoue jamais vaincu. Il aime mieux s'entêter. Il aime mieux être malheureux que d'avouer d'être vaincu. C'est extraordinaire, ça. On le sait bien, ça, c'est la psychologie d'orgueilleux. On la connaît parfaitement. Celui qui dit qu'il ne connaît pas la psychologie de l'orgueilleux, ça prouve qu'il n'est pas très lucide. On connaît tous très bien ce que c'est que la psychologie de l'orgueil. Parce que c'est le péché dominant qui est en nous. On sait très bien, c'est très difficile de s'avouer vaincu. D'avouer qu'on s'est trompé. D'avouer qu'on a tort. Jésus a renvoyé le démon. Et le démon revient. Cette fois plus fort, à travers la bête de la terre et la bête de la mer. Et c'est cela, je crois, que Saint Jean veut nous montrer. Il nous fait comprendre qu'au début de la vie apostolique de Jésus, tout est joyeux. Joyeux dans la lutte, mais joyeux. Mais, déjà, dès cette première période de la vie apostolique de Jésus, on voit la lutte qui commence. Et j'en souligne le motif premier par où le démon commence à s'infiltrer. Jésus, dans une miséricorde si grande, le jour du sabbat ne regarde que la misère de cet homme. Ça, c'est extraordinaire. Et Jésus, le jour du sabbat, en toute hâte, fait le miracle. Pour libérer cet infirme. Lève-toi, emporte ton grabat et marche. Alors, immédiatement, le démon va à travers les Juifs qui sont là transition de Jésus par rapport à la loi et par rapport à ce qu'il y a de plus profondément encore, le sabbat. C'était un sabbat ce jour-là. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton grappin. Il lui leur répondit, celui qui m'a rendu la santé, celui-là m'a dit, emporte ton grappin et marche. Ce pauvre, 38 ans d'infirmité, d'amertume, Ça a des conséquences terribles au point de vue du psychisme. Ce pauvre n'a pas la force d'accepter ce reproche qu'on lui fait, alors qu'il aurait pu répondre. Pendant 38 ans, j'ai observé le sabbat. Étant juif, il ne voulait pas faire. Il aurait pu répondre de cette manière-là. Ça aurait été bien. Une réponse ad hominem, directe. Il n'a pas la force et l'intelligence de le faire. Ça use, hein. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ça use d'être 38 ans dans une communauté comme celle-là, dont on n'a qu'un seul désir, c'est de la quitter. C'est très fatigant d'être en porte-à-faux dans une communauté. Pendant 38 ans, espérer d'acquitter, puis on ne peut pas l'acquitter. Et chaque fois que ça renaissait, que l'ange agitait l'eau, le bien commun de cette communauté, c'est de l'acquitter. C'est assez extraordinaire de nous montrer ça. Alors on voit très bien, cet homme, il est labouré, abîmé psychologiquement. Il est faible. Alors, quand on est faible, qu'est-ce qu'on fait? On vous attaque. Ah, mais c'est l'autre. Je ne fais pas le mal, puisque j'obéis à l'autre. Et l'autre, c'est qui? C'est celui qui m'a rendu la santé. Celui-là m'a dit, emporte ton grappin et marche. Ils l'interrogèrent. Quel est l'homme qui t'a dit, emporte et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus. Jésus, en effet, avait disparu. C'est aussi quelque chose de très très beau, ça. Montrer que ces pauvres infirmes, c'était comme une petite enclave. Ils n'étaient au courant de rien. À Israël, on savait qui était Jésus. Depuis qu'il avait chassé les vendeurs du temple, depuis qu'il avait fait des miracles, on savait. Les gens bien le savaient. Ceux qui étaient à la piscine de Bethsaida étaient loin de tout. Ils ne savaient pas qui pouvait être ce prophète. Et puis on voit très bien, tellement heureux de pouvoir prendre son grappin et de marcher, il n'a même pas demandé qui il était. Pas la moindre reconnaissance, vous voyez. La reconnaissance a demandé, qui êtes-vous? Que je puisse quand même vous remercier. À qui ai-je l'honneur de parler? On voit très bien cet infirme subitement demandant ça. Non, pas du tout, il s'en va tout de suite. Il n'a même pas demandé ça. Alors on voit bien. Après cela, Jésus le retrouve au temple. Donc il a été tout de suite. Mais au temple, le jour du sabbat, dernier endroit où il faut aller. Il lui dit, voici que tu as recouvré la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. L'homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait rendu la santé. là, c'est la chose terrible. C'est là où on voit la fragilité de cet homme. Il aurait pu s'en moquer. Passé. C'est terminé, il a dépassé ceux qui l'attaquaient. Non, il revient pour se justifier. Jésus savait très bien qu'en guérissant cet homme le jour du sabbat, c'était le premier pas vers la croix. Et c'est ça, je crois, que Jean veut nous faire comprendre. Il veut nous faire comprendre cette miséricorde, non seulement gratuite, puisque c'est un... Cette miséricorde va tellement loin qu'en faisant ce geste de miséricorde, Jésus accepte qu'on le condamne à cause de sa miséricorde. C'est peut-être ça la miséricorde chrétienne. Parce que ça, c'est le dépassement de toute miséricorde. Déjà, le vieux philosophe Aristote disait « La miséricorde, ce n'est pas une vertu, c'est une disposition de faiblesse, propre à la mère. Ce sont les femmes qui sont miséricordieuses, et spécialement les mères. Les hommes, non. Les philosophes, surtout pas. Donc déjà, montrer le geste de miséricorde, c'est une vertu. C'est une très extraordinaire. La lecture réfectoire, à midi, hein, pour certains points comme ça. Mais ça va encore beaucoup plus loin. C'est faire un geste de miséricorde qui non seulement regarde la misère des autres pour la soulager, mais... on se compromet. C'est beaucoup plus. On se compromet en faisant un geste de miséricorde. Et Dieu, quelquefois, nous met dans des situations comme ça. On se compromet, oui. Jésus s'est compromis en faisant des gestes de miséricorde. Il s'est compromis ici, d'une façon très particulière, par rapport à la communauté religieuse. C'est pas simplement se compromettre en mangeant avec des publicains. Ça, à la rigueur, on pourrait dire. Hein. Il est une telle générosité qu'il va manger avec les publicains. Mais là, c'est beaucoup plus. C'est accepter que de l'extérieur, on le juge. C'est ça que ça veut dire, œuvrer. On coopère, on est là pour... Mon père, j'allais presque dire... Mon père, par la création, s'est compromis. Il œuvre. Et c'est vrai, la création, c'est pas du tout un geste indifférent. Ça implique un engagement de père. Dieu s'engage en créant. Ça, on l'oublie beaucoup trop. On a l'impression qu'il y a un certain dilettantisme. La sagesse joue. C'est un jeu, mais un jeu très sérieux. Et qui fait que Dieu s'engage. Je crois que c'est ça. C'est très difficile, cette parole. Elle est très belle. Elle est profonde. Elle est difficile à expliquer. Mon père œuvre jusqu'à présent. Parce que vous comprenez, si vous regardez le début de la Genèse, hein, vous voyez bien que Dieu s'est reposé au septième jour. Et ce septième jour du repos de Dieu fonde le sabbat. C'est pour le repos de Dieu qu'il y a le repos de l'homme. Et ce repos de Dieu montre qu'il a terminé son œuvre de créateur et qu'il se repose. C'est la contemplation. Et l'homme rejoint cette contemplation par l'adoration. Ici, Jésus brouille les cartes. Signification la plus forte en face d'un juridique. durcissement à l'application de la lettre. Vous voyez, Jean qui connaît bien et qui aime son peuple veut nous faire comprendre cette incompréhension, ce durcissement qui a été jusqu'à la croix. Vous savez bien, quand il s'agit de certaines oppositions, certaines interprétations différentes, il faut tout le temps revenir à l'endroit du litige. Parce que si on s'éloigne, les choses se durcissent. Et on doit reprendre la compréhension de la chose. Et c'est dit. Hein. Voilà donc pourquoi les Juifs n'en cherchaient que plus à le tuer. Second point, qu'il invoque le Père pour justifier l'action qu'il fait. Parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant l'égal de Dieu. Voilà les deux motifs qu'on retrouve intégralement au terme. Jean les saisit là pour voir l'attitude du démon, la bête de la mer. Je crois que c'est la bête de la mer, là. Qui a la place d'essayer de comprendre la grandeur du geste du Christ.
Cela.
plus intime de son cœur. Ça serait facile. préparer à la contemplation, tandis que l'étonnement, c'est plus humain, tandis que c'est, soyez dans l'admiration. De même, en effet, que le Père révèle, de même, en effet, que le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Donc c'est pour nous faire comprendre l'action qu'il a faite. Il a rendu vie à cet infirme. Et le Père l'envoie pour cela. Car le Père ne juge personne. Tout le jugement, il l'a remis au Fils. Pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Voyez l'effacement du Père en face du Fils. De même, en effet, que le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils le fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Voilà l'effacement. Juger, c'est exercer l'autorité. Vous savez bien. Seul celui qui a autorité juge et discerne en dernier lieu. Dans une petite discussion, on peut discuter et juger. Mais quand on n'a pas d'autorité, on ne juge jamais en dernier lieu. C'est celui qui a l'autorité suprême qui juge en dernier lieu. Le Père, qui a toute autorité, s'efface devant le Fils, devant Jésus. Le Père ne juge personne. Tout le jugement, il l'a remis au Fils. Pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Le Père s'efface pour laisser au Fils l'exercice de l'autorité. Et pour que le Fils soit honoré d'une manière unique. Et honoré de la même manière que le Père. Alors comment on honore le Père? En l'adorant. Et donc on honore le Fils en l'adorant. Vous savez que l'honneur est dû à la dignité de la personne. On rend un honneur différent suivant les galons. C'est bien ça à l'armée. L'honneur est rendu différemment selon l'autorité, c'est sûr. On ne regarde pas de la même façon celui qui a l'autorité suprême et puis celui qui a une autorité tout proche de nous. Pas tout à fait de la même façon. L'honneur regarde la dignité de la personne et l'autorité de la personne. Or, si l'honneur regarde la dignité de la personne, comment honorer Dieu? Il n'y a qu'une seule manière d'honorer Dieu en tant que Dieu, en tant que Créateur, c'est l'adorer. Vous pouvez louer des quantités de personnes, vous pouvez remercier des quantités de personnes, mais vous ne pouvez adorer que Dieu. C'est pour ça qu'il faut que toujours la louange, l'action de grâce, commence par l'adoration et se termine dans l'adoration. Autrement, on risque très vite d'humaniser la louange. D'humaniser.